effectivement dans le monde, dans l'espace interplanétaire ou interstellaire, et qui est sur Terre à un moment donné, c'est une chose. C'est carré, la matière organisée, le carbone et le hydrogène et l'oxygène et d'autres petits atomes qui font que ça marche. Tout ça, c'est ça qui fait la première manifestation du monde. Bien sûr, l'hypothèse, c'est qu'on travaille sur cette hypothèse. En fait, que ce soit sur Terre ou ailleurs, tout le monde est actuellement à peu près d'accord pour dire que ce sera du carbone, éléments de carbone, C12, et non pas avec de l'eau, H2O, et puis encore une fois, hydrogène, oxygène, azote, et beaucoup de choses. Qui va être ça. Le point le plus important qui précède l'importance de l'organisme, c'est l'individuation. C'est le moment. Quand est-ce que cette usine chimique s'est trouvée enfermée à un moment donné dans un petit sac gras, des lipides, en science, la graisse, pour devenir un individu capable de faire la deuxième manifestation de la vie, qui est de se multiplier. C'est-à-dire que un organisme n'est qu'à faire, capable de faire plus d'organismes. C'est plus une multiplication, c'est une multiplication. Ça, c'est un point important. On a des idées, mais on ne sait pas. On a peu de chance de trouver des traces sur Terre aussi. Pour pouvoir s'utiliser, et pour que le deuxième organisme puisse faire un deuxième organisme, et chez les bactéries, ça fait deux jeunes bactéries. La troisième chose, c'est que pour faire pour que ça fonctionne, il faut transmettre la machinerie. Et cette machinerie, c'est ce qu'on appelle le code génétique, c'est ce qu'on appelle la génétique, etc. Et donc cette machinerie, elle est transmise, heureusement, de façon imparfaite. Parce que ça donne la troisième manifestation qui concerne normalement toute la botanique, le jardin, toute la vie en général, c'est l'évolution. Si c'était parfait, c'est comme si on photocopiait des pages. On fait 1000 pages, ce n'est pas un roman, ça fait 1000 pages. Et donc ça serait pareil. Et cette imperfection fait que, alors je ne réponds pas de l'évolution ce matin, je vais rebondir, je vais revenir sur le truc de ce matin, en disant les plantes se sont adaptées. Non. Alors je reviens en cours que ça va être un débat avec. Mais je prends les différents organismes. Il fait chaud, il y a une partie de la population qui se développe un peu mieux que l'autre. C'est pas un matin, le bactérien qui a dit « Ah, il fait chaud, il faut que j'ai une petite mutation pour m'adapter. » C'est pas ça. C'est, il faut revenir à la science de base, c'est le fait que le hasard des mutations font, fait que, à un moment donné, dans une population, il y a un groupe d'individus, qui est porteur d'une particularité qui n'a plus d'importance jusqu'au jour où le monde change, l'univers change. Et là, cette partie de la population, étant portant cet petit avantage compétitif pour la nourriture ou pour la reproduction, est capable effectivement de dominer l'autre. Et plus représentant jusqu'à un moment, soit la dans un nouveau milieu, soit faire disparaître. Et donc c'est ça, l'évolution. Mais c'est un terme, même les scientifiques, je me bats en permanence avec des scientifiques qui disent les bactéries sont adaptées, les plantes se sont adaptées. Non, jamais. C'est pas vrai. Donc voilà. Donc l'origine de la vie, donc les travaux, ils sont plutôt là-dessus. Alors il y a des gens qui font effectivement des tentatives de réplication. Il y a des gens qui font aussi des synthèses en laboratoire, ce qu'on appelle l'astrochimie de laboratoire, des essais de synthétiser les systèmes qu'on retrouve dans le cosmos d'une façon générale, l'anticipation sur les nanomètres, sur les comètes, reproduire, essayer de montrer qu'on peut avoir des molécules. Forme complexe, il n'y a pas de molécule de la vie. Il y a la vie, elle utilise 5 bases azotées pour le code génétique, ça fait des milliards de gènes, 5 parce qu'il y a le racine qui est différent dans les RN, 20 acides aminés, 20 acides aminés, 20 trucs qui font la viande, la chair, une cinquantaine de lipides, 200-300 sucres, et ça c'est la vie. La plus petite des bactéries, la plus belle des géantes. On est tous frères là-dedans. On est tous identiques. Il ne faut pas se faire des gens. Il n'y a pas d'idée. Voilà, c'est ça. Donc je ne peux pas tellement répondre à votre réponse, mais voilà. Je voulais simplement vous dire cet aspect évolution, parce que la notion d'évolution, c'est une notion, je pense, qui occupe beaucoup la communauté ici. Voilà, je pense qu'il faut remettre les choses en place. Si tu es d'accord.
Bon, moi, je vais revenir à l'oxygène, peut-être, parce que sur la question de l'adaptation par rapport à des changements environnementaux, moi, je me pose la question, par exemple, sur le passage, et j'ai beaucoup intérêt à écouter biologiste, parce que je ne suis pas biologiste, il m'aide beaucoup à comprendre des choses, entre l'uni et le pluricellulaire. Ça, c'est quelque chose qui est vraiment extraordinaire, parce qu'on en parle peu dans l'histoire de la vie. Parce que ce qu'on doit savoir, c'est que cette planète a une histoire par rapport à l'oxygène. Depuis sa mise en place, hein, depuis 4,5 milliards jusqu'en 2,5 milliards, 2,6 milliards, il n'y avait pas d'oxygène dans l'atmosphère, très 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 peu. Les bactéries n'ont rien à faire, c'est l'oxygène au corps. Quand il y a un environnement sans oxygène, les bactéries se développent, les bactéries anaérobiques, il n'y a aucun souci. Donc les premières bactéries ou les filaments bactériens découverts sont à peu près, on va dire, 3 milliards 8 si on accepte toutes les découvertes récentes. Entre 3 milliards 8 et 2 milliards 100, si on arrive à l'histoire, il y a quand même un intervalle de temps qui est très très intervalle. Et pendant cet intervalle de temps-là, il va y avoir un événement majeur à l'échelle de la planète, c'est la révolution de l'oxygène, qui va arriver à partir de 2 milliards 5, et on va faire ce qu'on appelle le fameux Great Oxidation Event, c'est-à-dire un fameux événement d'oxydation majeure, et cet événement il va être progressif, hop, et il va atteindre son maximum aux alentours de 2 milliards 2, 2 milliards 1. Et c'est là où la question devient intéressante, qu'est-ce qui se passe en termes d'adaptation cellulaire quand cet oxygène va se manifester, et cet oxygène-là, quand il va arriver pas comme ça, il va arriver suite d'abord à une grosse glaciation, fonte des glaces, des éléments nutritifs qui étaient piégés sur les continents vont aller dans les océans. Il y a à manger, les cyanobactéries vont se développer, la photosynthèse et l'oxygène. Donc on a à peu près, entre 2,5 milliards et 2,1 milliards, presque 400 millions d'années d'intervention d'un élément nouveau qui s'appelle l'oxygène et d'éléments nutritifs. Et c'est là où on se pose la question par rapport à l'adaptation cellulaire ou la révolution cellulaire, pour passer d'un stade, moi tout ce que j'appelle unicellulaire, c'est la bactérie, je ne parle pas de tout ce qui est colonie, etc., ça c'est quelque chose qu'on connaît tous, qu'on est stromatolite, tous les voiles bactériens, tout ça. Et je passe d'un stade unique à un stade plus complexe. Et là, il faudrait que la cellule puisse changer son comportement et pourquoi pas passer d'un bout d'ADN à quelque chose avec un noyau de membrane, c'est-à-dire carrément traverser le stade procaryote pour aller frapper à la porte des eucaryotes qui sont des cellules qui sont un tout petit peu plus perfectionnées. Alors évidemment, c'est un discours parfois qui vexe les microbiologistes. Souvent, ils me disent, mais attention, les bactéries sont très, très intelligentes. Ça n'enlève à rien l'intelligence bactérienne. Mais je veux dire par là, c'est qu'une bactérie a la capacité de se multiplier, de créer tout un tas de motifs. Ce sont des motifs qui sont répétitifs. Quand on passe à une cellule qui est plutôt eucaryotique, avec un noyau, ce sont un tas de cellules eucaryotes, et bien là, il y a un peu plus de choses sophistiquées, et donc on va commencer à mettre en place et à fabriquer des formes, des tailles, une diversité, une complexité, de morphologie, etc. Et là, il faut une adaptation. Alors moi, je ne suis pas biologiste, j'ai un gouffre d'ignorance en biologie, mais quand je discute avec les biologistes, ils m'expliquent que cet élément nouveau pour la bactérie, parce qu'il y avait ça, la tenir 5, et bien elle et ses voisines, ils vont se poser la question, il faut qu'on fasse quelque chose. Et c'est là où on se pose la question, est-ce qu'il n'y avait qu'un monde bactérien ou plusieurs mondes bactériens, et comment on a pu créer cette révolution pour passer de l'eucaryote à l'eucaryote. Soit une adaptation, un géologue comme moi pense, bêtement, naïvement, par rapport à l'environnement, soit alors il y a des souches qui étaient dormantes et qui vont se mettre en place avec l'arrivée de cet élément nouveau que ça fait. Donc ça c'est des choses, alors c'est un petit peu loin de l'origine, etc. Juste toute petite parenthèse pour répondre à votre question concernant les expériences. C'est pas que 20-30 ans, ça fait plus que ça, peut-être 50 ans, 60 ans, que les gens essaient de mettre en place ce qu'on appelle les chimies prébiotiques. À ma connaissance, aujourd'hui, il y a pas mal d'expériences qui sont pas abouties. Hein. On n'est pas encore arrivé à créer des hybrides du vivant. Il y a des choses encourageantes, mais on n'a pas, au sein du laboratoire, réussi à mettre en place quelque chose de vraiment performant pour dire, ben, voilà, là, on a la chimie nécessaire, on a fabriqué quelque chose. Pour l'instant, il n'y a rien de concret.
Mais justement, les
Michel Bizot
et vous avez fait traverser à la population les parties suivantes que Hélène avait préparées, qui étaient à propos des classifications du vivant, métamorphose végétale. On était dans cette question de la métamorphose, c'était la deuxième, c'est ça?
Moi j'ai juste une question par rapport à la transfermie, vous pouvez revenir, mais ça reste une hypothèse.
Oui, pour l'instant, la transfermie reste une hypothèse pour une raison simple. Parce qu'on n'a pas trouvé de forme de vie ailleurs que sur Terre. La même chose. C'est une hypothèse qui n'est pas farfelue si on se réfère à Mars, puisque on sait qu'il y a effectivement des objets qui ont changé entre Mars et la Terre. Et on sait que, d'après les astronomes que j'ai interrogés, ça prend entre 15 et 25 000 ans, 15 000 et 25 000 ans, pour qu'un caillou qui parte de Mars et qui se trouve sur une orbite qui croise la Terre, à un moment donné, va tomber dessus. Donc, c'est une hypothèse qui n'est pas totalement infondée. Par contre, il y a eu des hypothèses sur la transfermie, sur les virus ARN qui viendraient, les comètes, etc. Là, on est quand même dans l'hypothèse soit pour s'amuser, soit pour faire. On fait ce qu'on veut. Alors, si on en prend sérieux, c'est farfelu. Si on s'amuse, c'est intéressant.
Donc on enchaîne sur la seconde. Sauf s'il y a d'autres interrogations.
Oui, ce que je voulais dire, je connais les participants à l'UGO qui a beau le potentiel, mais si vous voulez. Non, au contraire, je crois que justement, nous, on a envie de vous entendre, mais tout le monde est
très. Je peux juste affirmer deux choses à nous-mêmes pour éveiller un peu aux ovalins, pour éviter que ça devienne si. Tout d'abord, je pense que la question d'Alexandre touche un problème, au moins d'un point de vue métaphysique intéressant. Vous avez parlé justement du fait que ça fait longtemps, ça fait au fond l'expérience de Loré et de Spitzky qui ont essayé de. Ça fait quand même un petit moment, mais il y a un paradoxe. Qui est difficile à dépasser, c'est-à-dire d'un point de vue métaphysique, pas d'un point de vue scientifique, de tous ces genres d'expériences, c'est qu'on voudrait assister à l'enjambrement de la vie à partir d'un monde sans vie, et on oublie que en fait, c'est l'être vivant qui fait ça. Donc il y a quand même une espèce de présupposition de vivant dans l'effet même de l'expérience qui rend cette interrogation d'un point de vue métaphysique, exclusivement peut-être d'un point de vue métaphysique, extrêmement coûteuse en fait, et compliquée à élaborer. Parce que, d'ailleurs, on ne peut pas dépasser le fait qu'il y a de la vie, et on ne peut pas faire des sauts vers un monde sans vie en fait. Donc ça, c'est peut-être intéressant. Et à propos et à ces propos, je pense que la pièce de Philippe Arénaud est intéressant parce que c'est une pièce au fond qui semblerait montrer que peut-être cette opposition entre une chimie pré-organique et une chimie un monde prébiotique et un monde post-biotique n'est pas si forte que ça, parce que l'intérêt de cette pièce est aussi de glisser d'un monde complètement minéral à un monde habité, à un monde où il y a peut-être plus de la vie parce que tout est minéralisé, sans qu'il y ait au fond des ruptures très fortes, comme s'il y avait une espèce de continuum qui est beaucoup moins violent de ce que on s'imagine. Je ne sais pas, moi j'ai vu cette pièce de cette manière-là, et c'est l'un des aspects les plus intéressants de cette pièce, que c'est déjà les titres est paradoxal de ce point de vue, c'est une œuvre qui est perpétuellement habitable, mais qui donc, que c'est comme si l'habitabilité permettait de dépasser cette opposition entre un espace prébiotique et un espace où il y a la vie. Parce que de toute manière, même s'il n'y a pas encore la vie, le monde a été capable de vie, donc habitable, etc. etc.
Station un peu privée du labo, elle est arrivée après une journée de travail, et elle a pouvoir dire quelque chose. Avant, je vais juste glisser une question et je vais enchaîner directement sur ma question. Ce qui m'interrogeait, c'est est-ce que, alors en tant que métaphysiquement, c'est important que ce soit le 1 qui soit à l'origine, est-ce que scientifiquement, c'est le 1 uni qui est l'origine?
L'uni, lui, c'est l'heure. L'origine, c'est même un chiffre de dix. C'est 1, c'est 0,0. Dans ma conception, alors c'est peut-être un peu personnel, en parler entre scientifiques, mais à vous de le dire aussi, pour moi, un des éléments capitaux, c'est la création de l'individu. Parce que l'individu, ça signe la possibilité d'avoir les deux autres manifestations de la vie telles qu'on la connaît, de la concevoir, et qui en assure sa pérennité, parce que l'adaptation, en effet, c'est ce qui fait que la vie s'adapte à des nouveaux milieux, donc elle ne disparaît pas. C'est quelque part. C'est ça, l'adaptation. C'est pas un objectif, c'est pas un but, c'est un fait. C'est pas, il n'y a pas de déterminisme dans ça, hein, c'est vraiment, sinon c'est pas là. C'est le fruit de l'évolution. Il n'y a pas de la théorie d'évolution, mais de l'évolution. Je suis convaincu. La théorie de l'évolution, c'est un moyen pour détruire ce fait constaté. Donc, pour moi, le point de départ, c'est l'émergence de l'individu.